au réseau Cogeco. Vous écoutez une émission spéciale dans le cadre de l'ouverture du marché des joueurs autonomes de la LNH. De retour à Martin McGuire.
Nous sommes de retour en studio en direct pour cette émission spéciale entourant l'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la LNH. Alors, je vous rappelle, déjà des signatures importantes. Il y aurait une ouverture certaine entre les Maple Leafs de Toronto et John Tavares. Ça reste à confirmer. Le Canadien de Montréal s'est entendu pour un contrat d'un an avec le défenseur Xavier Ouellet. Le Canadien a également signé le jeune Pekka, Matthew Pekka, qui appartenait à l'organisation du Lightning de Tampa Bay. Matthew Pekka s'est promené entre le club école de la Ligue américaine et le grand club au cours des derniers mois. Et finalement, sans aucune surprise, le Canadien a aussi confirmé la signature du vétéran Tomáš Plekanec, donc qui retrouvera le Canadien pour probablement, vraisemblablement en tout cas, terminer sa carrière. On a le plaisir de retrouver Danny Dubé maintenant. Bonjour Danny.
Salut Martin.
Alors peut-être y aller tout de suite avec les signatures du Canadien qui sont déjà enregistrées là, dans le cas de Tomáš Plekanec. Je pense que c'est pas une grande surprise.
Bien, dans les circonstances, de toute façon, on savait que le souhait du Canadien, c'était de rapatrier Plekanec pour qu'il termine sa carrière avec sa formation, la formation qu'il l'a repêché. Donc, bon, dans les circonstances, le Canadien avait fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire aller chercher quelque chose pour lui, le ramener pour terminer sa carrière. Le Canadien prenait un certain risque, ils auraient pu le perdre. Si ça s'était bien terminé avec les Leafs, il aurait peut-être réussi à signer une nouvelle entente là-bas, ou en tout cas, on lui aurait certainement proposé. Là, après ça, c'est sûr, comme joueur autonome, ça lui appartenait. Là. Donc, mais écoute, c'est tout ça, il faut garder à l'esprit que... on a un petit peu le bec à l'eau chez le Canadien. Si on regarde les signatures des joueurs de centre les plus prisés, là, très rapidement, ça s'est envolé. Bon, on connaît le dossier Tavares, on sait que ce ne sera pas à Montréal, donc il n'y a pas de suspense là.
Et bien évidemment, Danny aussi, le retour de Plekanec s'inscrit également, c'est paradoxal ce que je vais dire, mais dans un mouvement de rajeunissement. Parce qu'on rajeunit de plus en plus l'équipe du Canadien. Et peut-être même dans ce contexte-là, Plekanec sera plus utile l'an prochain qu'il ne l'a été à ce niveau-là, en tout cas au cours des 2-3 dernières années.
Bien, c'est un bon vétéran, puis tu as raison de le mentionner. On va certainement gérer la décroissance, donner un petit peu moins de responsabilité à Plekanec. C'est déjà, ça s'était entrepris, ça, dans les derniers instants de sa carrière à Montréal, après qu'on eut constaté là, l'état des lieux, fait des dégâts, en disant, bon, on participera pas aux séries. Ouais. Donc là, on va commencer à donner un petit peu plus de charge de travail à certains joueurs, mais en même temps, ben, il y a eu des blessures. C'était une saison horrible en passé pour ça. Il n'y a pas eu de stabilité. Espérons que cette année, tout au moins, l'aspect des blessures et de la stabilité versus la stabilité, que finalement, là, le Canadien va pouvoir bénéficier d'un peu plus de stabilité et de moins de joueurs à l'infirmerie.
Et évidemment, on poursuit avec les annonces du Canadien parce que l'arrivée du défenseur Xavier Ouellet avec un contrat d'un an à deux volets qu'il pourrait lui rapporter 700 000 $ s'il se taille un poste avec l'équipe n'est pas non plus une grande surprise, Danny. Ouellet, libéré par les Red Wings de Détroit dans la dernière semaine, devenait un risque intéressant pour le CH, étant donné qu'on cherche de la profondeur à la ligne bleue, mais surtout, c'est un jeune homme qui n'a pas 25 ans. Il y a un lien de connaissance avec Joël Bouchard. Je pense que lui aura un préjugé favorable au camp d'entraînement.
Bien, c'est clair que dans le cas de Xavier, c'est un joueur qui a des affinités avec Joël Bouchard. Donc, la connexion fait que c'est plus facile. Lui, il a le préjugé favorable. C'est plus facile de s'amener avec le Canadien. Ses chances sont énormes de réussir à plaire à l'organisation du Canadien, qui, on doit bien le mentionner, là, est pas très bien nanti à la ligne bleue. J'ai été surpris de voir que les Red Wings l'ont laissé partir, vraiment, un jeune joueur comme ça.
Ils ont démissionné sur lui, alors que les défenseurs, à moins que ce soit des exceptionnels, Danny, tu me corrigeras, n'arrivent pas à maturité avant 26-27 ans. Là. C'est ça qui est intéressant pour le Canadien.
Ben, c'est intéressant pour le Canadien, puis c'est intriguant pour nous à savoir comment ça que c'est arrivé, cette histoire-là. Parce que habituellement, c'est très difficile d'obtenir des défenseurs, des joueurs de centre, nous on le sait à Montréal. Alors évidemment, de voir ce qui se passe, que Xavier soit disponible, tout ce qu'on espère, c'est qu'il va retrouver La confiance qu'il animait chez les juniors, la façon dont il jouait, c'était vraiment un joueur dominant. Moi, j'ai adoré le voir jouer chez les juniors. C'était évidemment un petit peu plus difficile chez les professionnels. C'est souvent le cas chez les... c'est des positions plus difficiles à jouer. C'est la raison pour laquelle j'y reviens. Là, c'est encore une fois, c'est ce qui m'a un peu surpris. Parce que les Red Wings n'ont pas cette réputation. Ils n'ont pas la réputation d'abandonner sur les jeunes joueurs.
Ben, dans le cas de Xavier Ouellet, si on peut poursuivre sur lui, Danny, ce qu'on savait, c'est qu'il y avait quelques organisations qui avaient manifesté de l'intérêt. On pensait qu'au moins 3-4 organisations de la LNH, là, excluant le Canadien, avaient déposé des offres à Xavier Ouellet de contrat à double sens. Mais pour lui, de revenir en pays de connaissance, et là, on ne veut pas conjurer le sort pour Xavier, on souhaite qu'il puisse faire partie du top 6, top 7 du Canadien à la conclusion du camp d'entraînement en octobre. Mais si, pour lui, il devait y avoir un retour dans la Ligue américaine, à ce moment-là, de retrouver Joël Bouchard, qu'il connaît très bien, c'est pas une mauvaise situation. Puis surtout, de pouvoir vivre à Montréal, en plus, c'est peut-être devenu l'argument de poids dans le cas de Xavier Ouellet.
C'est sûr. Moi, si je suis dans les souliers de son agent, je lui dis de sauter sur l'opportunité du Canadien en courant. Pourquoi? Parce qu'il y a des préjugés favorables avec l'arrivée de Joël dans l'organisation, Joël Bouchard. Préjugés favorables également parce qu'il y a énormément de place sur le flanc gauche. C'est un joueur qui est très polyvalent, d'ailleurs. Un excellent coup de patin. Il y a un tas de choses qui militent en sa faveur. Et le Canadien, on le sait, à la ligne bleue, là, il y a énormément d'espace. Donc pour Xavier, c'est un scénario qui est parfait. Alors maintenant, c'est à lui de sauter sur l'opportunité parce que l'opportunité est là, mais c'est à lui de la saisir. Là.
Dans le cas de Mathieu Pekka, c'est un joueur qu'on connaît moins, Danny Pekka. Ouais. On connaît le nom parce que le paternel, évidemment, on le connaît très bien,
c'est ça, là, exactement.
Qui a joué longtemps dans la LNH. Mais je me souviens quand Pekka avait été repêché, on disait qu'il était un peu dans le moule du paternel. On disait que c'était un joueur qui ressemblait à son père, les valeurs, les convictions, un bon joueur de deux sens de patinoire, un gars qui pouvait jouer du hockey émotif et tout ça. Et j'ai l'impression, Danny, que l'acquisition de Pekka s'en va aussi dans l'espèce de marque de commerce que le Canadien cherche à développer, c'est-à-dire caractère et attitude aussi, là.
Ben, ça, c'est... écoute, on parle souvent de caractère et d'attitude quand il y a un petit peu moins de talent.
Oui, tu fais bien de mentionner.
Non, mais je dis ça sans aucun sarcasme. Là. C'est la réalité, c'est ça. Là. T'sais, ce que tu veux avoir, c'est un joueur qui a du talent puis du caractère. C'est ça que tu veux avoir. Mais dans le cas de Pekka, moi, ça s'inscrit dans ce que Joël Bouchard veut mettre en place. Et ça, je pense qu'eux, quand ils font l'acquisition d'un joueur comme celui-là, c'est clair que c'est un gars qu'on regarde pour la profondeur de l'organisation. Donc, dans la Ligue américaine, c'est un joueur déjà qui a probablement fait ses preuves au sein d'une organisation qui, encore une fois, et je le répète, qui n'a pas la réputation de laisser partir, de jeter les choux gras. Là,
ouais.
Donc, encore une fois, c'est un risque, mais c'est un beau risque. Moi, j'aime bien l'idée qu'il vient d'un environnement où sa famille, le hockey, il a toujours entendu parler de hockey. Donc, il y a des choses qui militent en sa faveur. Encore une fois, c'est une opportunité qu'il devra saisir lui-même. Là, il n'y a pas personne qui va lui donner de cadeau. Mais je pense qu'il va y avoir un virage parce que Joël Bouchard, je regarde ce qu'il est en train de faire il va avoir beaucoup de joueurs dans le vestiaire sur qui il va avoir des ascendants.
Des joueurs piliers aussi à quelque part. Hein.
Ben, c'est un peu mon point dans le sens que, tu sais, il y a un ascendant sur ces joueurs-là, il y a une relation qui est déjà existante, il y a un passé. Donc, pour mettre en place quelque chose dans le vestiaire, le discours doit porter. Et le discours... Tu sais, Joël, il arrive, c'est un nouvel entraîneur, les joueurs le regardent, il y en a qui le connaissent, il y en a qui le connaissent pas, il y en a qui veulent embarquer, il y en a toujours qui veulent pas embarquer.
Ils vont être réticents, là, ouais.
Là, tu vas avoir déjà des joueurs qui sont conquis. Et ça, c'est un élément extrêmement important pour établir comme il faut l'atmosphère, le climat, l'environnement, l'éthique de travail, les valeurs, etc., puisqu'il y a beaucoup des valeurs de Joël qui vont être transmises par ces joueurs-là.
Danny, évidemment, ce qui se passe ailleurs qu'à Montréal devient un incontournable à ce stade-ci. On dit que John Tavares aurait maintenant deux équipes sur la ligne. Les Maple Leafs de Toronto seraient toujours dans la course et aussi les Sharks de San Jose. Le Lightning Lightning de Tampa Bay se serait retiré de ce dossier-là au cours des dernières minutes, mais il resterait San Jose et Toronto. Alors, visible...
J'espère, Martin.
Non, vas-y, j'allais dire, visiblement, Tavares a été conséquent avec lui-même. Il identifie des équipes qui potentiellement peuvent se rapprocher d'un championnat.
J'espère qu'il s'en va avec San Jose.
Oui.
J'espère qu'il s'en va avec
parce que sans ça, s'il va à Toronto, il est dans la division du Canadien.
Il est dans le cours du Canadien, puis honnêtement, déjà...
Cinq fois par année.
C'est pas facile de jouer contre les Leafs depuis l'arrivée de Austin Matthews et de sa bande. Alors maintenant, ce serait un coup fumant parce que les Leafs, avec ça... aurait un one-two punch extraordinaire.
Oui.
Éventuellement, les gens parlent du contrat, tout ça, mais je veux dire, de toute façon, éventuellement, on va commencer à regarder pour se départir de certains ailiers, puis faire de la place à des jeunes. Ils ont une pépinière de joueurs qui regorge de talent. Année après année, ils sont en série avec les Marlies. Année après année, ils ont du succès. Il y a des joueurs qui frappent à la porte. On sait qu'on va pouvoir éventuellement se départir peut-être d'un ou deux joueurs chez les Leafs et laisser entrer du jeune talent. Ouais. C'est la raison pour laquelle, parce que l'excellence du travail de Hunter qui a quitté, là. Alors là, eux, ils ont un nouveau défi, mais les espèces de... l'héritage de Mark Hunter va quand même perdurer pour quelques années et les Leafs vont en profiter. Ça, c'est probablement la période où ils auront le plus de succès dans les années à venir, surtout s'ils réussissent à finaliser le dossier Tavares.
Danny, dans la LNH, un peu plus tôt aujourd'hui, on a confirmé l'acquisition de Paul Stastny par les Golden Knights de Las Vegas. C'est un jour triste pour les Jets de Winnipeg. Ils ont tenté probablement jusqu'à la dernière minute parce qu'hier, ils ont quand même tiré entre guillemets, le contrat du gardien Steve Mason à Montréal, peut-être pour se donner de la marge de manœuvre, mais visiblement, Stastny se tourne vers Vegas pour un contrat de 3 ans à 19,5 millions de dollars. C'est triste pour les Jets de Winnipeg de perdre Stastny, mais Stastny aboutit dans une équipe où il est aussi très bien entouré.
Oui, c'est une équipe qui a du succès, qui a eu du succès l'an passé. Écoute, honnêtement, je comprends au niveau de la destination. Là.
Oui, tout le monde comprend.
Mais sa situation était meilleure avec les Jets.
Ben, en tout cas, la situation au hockey avec la qualité des jeunes ailiers, gars comme Laine, des gars comme Healers, puis ça, c'est sans parler de Kyle Connor qui a émergé. Ça aussi, là, quelque part, c'était tout un environnement pour lui.
Oui, mais là aussi, à Winnipeg, il y a plusieurs joueurs... qui frappe à la porte. Il y a des joueurs qui montent dans l'organisation. Et honnêtement, là, je le dis avec tout le respect, là, moi, je pense que c'est pas été une bonne décision pour Stastny. Je pense sincèrement qu'il va trouver ça plus difficile. Ben, plus difficile. Je suis pas sûr que les Golden Knights vont avoir le genre de saison qu'ils ont eu cette année l'an prochain.
Ouais.
C'est une bonne équipe. Là, on se trompe pas. Là. Je ne veux pas qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit. Mais honnêtement, entre les deux, je pense que la formation qui a le plus de possibilités de continuer de croître, de progresser, c'est celle des Jets de Winnipeg qui sont meilleurs que les Golden Knights à certains égards à la ligne bleue.
Ouais.
À certains égards devant le filet, je pense qu'il peut y avoir une équité. Là, l'expérience et l'excellence de Marc-André fera toujours foi du succès de cette équipe-là. Mais de l'autre côté, je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui se sont passées avec Hellebuck et l'équipe commence à trouver vraiment sa vitesse de croisière et son identité à Winnipeg.
Dans le cas de James Van Riemsdyk, c'est une perte sèche pour les Maple Leafs de Toronto, mais comme ils sont toujours dans le derby pour obtenir John Tavares, c'est quand même pas trop mal. Les Flyers de Philadelphie le récupèrent. J'ai hâte d'en parler aussi avec Daniel Brière dans les prochaines minutes, là, mais Danny, on le sait comment on a regretté le départ de James Van Riemsdyk à Philadelphie. Et là, les Flyers le récupèrent. Ils le récupèrent quand même à coût de 7 millions par saison pour une période de 5 ans, mais là aussi, c'était quelque part un mariage naturel entre Van Riemsdyk et les Flyers, même si Paul Holmgren l'avait sacrifié pour pas grand-chose.
Non, mais à l'époque, rappelle-toi, Paul Holmgren, il a fait des choses à l'ancienne méthode, à la Bobby Clark,
oui.
L'ancienne mentalité. C'est pas un vrai Flyers. Il est pas assez robuste pour un gros joueur. Et combien de fois, avec les Flyers, on a agi de la sorte et on a sacrifié des joueurs
des joueurs
importants
de
qui ont eu des belles carrières ailleurs dans la, la Ligue nationale. On pense à Sharp, on pense à Williams. C'est des joueurs qui ont été repêchés par les Flyers de Philadelphie et qui n'ont pas eu la chance de vraiment s'épanouir avec les Flyers.
Et les Flyers cherchaient ce genre de joueurs. Et les Flyers s'offrent des buts. Danny, on doit déjà conclure avec toi, puisque dans quelques instants, on va aller retrouver Jonathan Marchessault. Mais je te promets qu'on se reparlera d'ici la fin de cette émission, bien sûr, en réaction et en analyse sur tout ce qu'on aura accumulé comme nouvelles au cours de la journée, là, autant chez le Canadien qu'ailleurs dans la LNH. Merci, Danny.
Avec plaisir. Bye-bye, Martin.
On s'arrête pour une courte pause et au retour, nous irons dans le giron des Golden Knights de Las Vegas qui ont signé un petit peu plus tôt aujourd'hui, confirmé maintenant, le joueur de centre vétéran Paul Stastny. On en parle avec Jonathan Marchessault dans un moment.